Merci Tiffaine, bon week-end. Invités au long cours, Bernard Banoun et Thierry Gilibeuf, le premier germaniste, traducteur, fait histoire colossale hein, des traductions en langue française. Le second n'en a toujours pas fini avec Melville.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Si j'étais vous, je le flanquerais à la porte.
Ce n'est pas parce qu'il déjeune au bureau qu'on doit le mettre à la porte.
Vous pouvez avoir confiance. Répondez-moi.
Je préfère ne pas le faire pour le moment, monsieur. Du reste, à partir de maintenant, je préférerais ne plus faire d'écriture.
Il y a quelqu'un ?
Mais bon Dieu, qui est-ce ?
Je serais bien incapable de vous le dire.
Pas sûr qu'on puisse encore y répondre. Bartleby, filmé par Maurice René en 78, avec Michael Lonsdale et Maxence Melfort. Bartleby, la nouvelle de Melville parue discrètement, on peut le dire, en 1853 dans la presse américaine, est devenue l'un des phares sombres, disons, de la modernité littéraire. Alors, puisqu'il va être question de traduction aujourd'hui, ce fameux « I would prefer not » tout, sans doute une des phrases les plus commentées de l'histoire de la littérature, devenue en français « je ne préférerais pas »,« je préférerais pas », »,« je préférerais ne pas » ou encore « j'aimerais mieux pas ». Comment le traduisez-vous, Thierry Gilibeuf ?
Oula ! Moi, j'aurais peut-être une tendance à dire « j'aimerais mieux pas », parce que je pense qu'il faut aller... il faut passer à autre chose, quand même. C'est vrai, cette phrase, elle est devenue un peu... Elle noie presque trop le texte de... Ou les fonds de Bartleby. Mais c'est amusant que vous me posiez la question parce que c'est une problématique qu'on est en train de se poser avec Christian Garcin. On a déjà fait donc les, comme on a fini avec Garpo.
Vous avez traduit
toutes les nouvelles. Voilà,
le
troisième tome vient de paraître aux éditions Phébus. Et donc on s'est lancé dans la retraduction. On est en train de finir de l'intégrale des nouvelles de Melville justement pour les éditions Finitude. Ça paraît dans un an.
Et donc, comment vous avez traduit ?
Alors, c'est
vous
pas moi qui c'est pas encore. C'est pas ça, c'est que c'est pas moi qui ai traduit Bartleby. On s'est réparti les tâches et moi, Christian tenait tout le monde à traduire Bartleby. Je crois qu'il a opté par j'aimerais mieux pas. Justement, on en a beaucoup discuté. Hein. Alors, le secret de cuisine, c'est que chacun traduit sa moitié de nouvelles, envoie à l'autre et ensuite, là, on est dans la phase où on va envoyer à l'autre. Et donc, je vais relire et voir comment il a traduit ça. Donc, à quelques jours près, deux, trois semaines près, j'aurais pu répondre à la question. Mais je crois qu'il l'a traduit par j'aimerais mieux pas, tout simplement.
Faudra revenir pour nous le dire. Oui. Thierry Gilibeuf, Bernard Banoun, bienvenue donc à tous les deux. De la traduction et de ce qui s'en suit, voilà le programme d'aujourd'hui. Un copieux, si copieux qu'il va falloir évidemment trancher dans le vif, trancher dans l'histoire des traductions en langue française, dont le quatrième volume consacré au XXe siècle paraît aux éditions Verdier, sous votre co-direction, Bernard Banoun. Une somme de près de 1900 pages qui vient achever un projet éditorial vertigineux hein, qui rappelle si besoin était que le XXe siècle est bien celui de la traduction. Vertige et traduction toujours côté XIXe siècle, cette fois avec vous Thierry Gilibeuf, qui après, donc vous venez de le dire, l'intégrale des nouvelles d'Edgar Allan Poe, traduite avec Christian Garcin chez Phébus, travaillez aujourd'hui toujours avec lui, donc à la traduction des nouvelles de Melville. S'ajoutent à votre chantier melvillien quelques-uns de ses poèmes, hein, déjà, puis je sais qu'il y en a encore d'autres sur votre table de travail, et puis une anthologie de 10 et Maxime, fraîchement paru aux éditions Arfuyen. Il y a là, dans cette petite anthologie, hein, cueillie au fil de l'eau, des petits bouts de Pierre ou les ambiguïtés, du Grand Escroc, des Mers du Sud, de Bartleby, quand même, de Moi et ma cheminée, de Clarel, Timoléon, Billy Budd, donc poésie, roman, nouvelle, et puis bien sûr, le roman monstre. John Bonham et son très culte solo de batterie de Moby Dick signé Led Zeppelin pour commencer. Et Dieu sait que Moby Dick et sa traduction en français ont fait écrire, penser et chanter. Celui-ci est un Moby Dick percutant, en tout cas à percussion. Thierry Gilibeuf, quels sons est-ce que vous entendez, vous, en lisant Moby Dick? Est-ce qu'il y a une bande-son qui vous vient, sachant que c'est quand même plutôt un roman à couleur froide, mais à couleur?
Je dirais que le son a changé pour moi depuis cet été, puisque je suis allé avec ma compagne au Québec et que nous avons fait une concession au tourisme. Nous avons fait une croisière à Tadoussac sur le Saint-Laurent pour aller justement voir les baleines. Donc sur un zodiaque, dans la brume, il faisait 6 degrés au milieu du Saint-Laurent, à 12 km de la côte au moins, parce qu'on a dépassé un phare qui était à 10 km. Et là, on était une vingtaine de personnes affublées comme des pêcheurs de chalutiers bretons. Et tout d'un coup, le zodiaque s'arrête. Et comme il y avait la brume, ils ne pouvaient pas voir les baleines. Donc le zodiaque s'arrête sans nous prévenir, comme ça. Et tout d'un coup, on est tous là dans cette espèce de tension et de silence à guetter ce souffle qu'on n'a jamais, enfin, pour ma part, j'avais jamais entendu, quoi. Et donc, j'ai vraiment l'impression d'être sur le Pequod, modestement, mais d'être sur le Pequod, de cette vigie qui attend de dire, elle souffle, et tout d'un coup, on entend, en effet, ce bruit qui est très particulier, qui est à la fois puissant, mais pas assourdissant. Je peux le dire, qu'on a eu un rorqual qui est quand même un beau bestiau, hein, de 20 mètres, 20 tonnes, qui était à portée de bras, qui a soufflé juste à côté du canoë, puis ensuite du zodiaque, ensuite a glissé dessous, cette longue silhouette, qui était transparente, c'était presque blanche en plus. Et c'est très impressionnant, mais en même temps, c'est très apaisant. Et alors, le son pour moi, c'est justement cette attente, ce silence qui précède, et ce bruit très particulier qui ressemble à aucun autre. C'est pour moi, maintenant, décidément, Moby Dick sera toujours associé à ce bruit-là, quoi.
Et vous, Bernard Banon?
Alors, en fait, là, je vais parler plutôt de traduction, de son du texte qui se refait, qui se reprend au fil du siècle, et peut-être souligner le fait que Moby Dick et Melville, dans l'ensemble, est en fait un auteur du 20e pour nous, alors qu'en fait, c'est un auteur du 19e, mais avec certains
pleinement
autres...
Pleinement du 19e.
Voilà, comme d'autres, comme James et aussi comme Conrad, donc ça concerne surtout des auteurs anglophones, ces auteurs qu'on considère comme des classiques de la modernité qui ont été promus par des écrivains français du 20e, alors que ça déforme, voilà, notre perception des histoires littéraires respectives. Et donc, en fait, c'est cette voie un peu décalée par la traduction, peut-être modernisée aussi, actualisée, qui me paraît importante.
On va en parler, bien sûr. J'ai dit chantier melvillien, Thierry Gilibeuf. On pourrait presque dire obsession melvillienne, hein, pour ce qui vous concerne. Cette sélection de pensées traduites par vos soins, éditées chez Arfuyen, que je citais à l'instant, a été piochée donc dans ses romans, dans ses souvenirs de marin, dans ses nouvelles, dans ses poèmes, dans ses journaux de voyage, dans ses lettres même, hein, tout à la fin. C'est d'abord une sélection de lecteurs, j'imagine, voire un autoportrait en lecteur. D'où vous vient-elle? De quoi est-elle faite, cette obsession, pour que vous soyez allé justement jusqu'à voyager sur ces traces, hein?
Ça vient de Moby Dick, tout simplement. Là, c'est vraiment un des livres les plus... Mais ça remonte à l'enfance, toujours ça. C'est toujours une espèce de fidélité à l'enfance. Il y a eu L'île mystérieuse et Moby Dick. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, moi, je ne suis pas un grand marin. Hein, un peu tendance à avoir le mal de mer, des choses comme ça. Donc, je ne suis vraiment pas un aventurier. Mais... Il y a une puissance dans ce récit qui m'a... Et pourtant, quand je l'ai lu la première fois dans une version pour enfants. C'est-à-dire expurgé de toutes les digressions, tous les didascalies. Et j'ai retrouvé cette édition d'enfance que j'ai relue au début de l'année. Ça marche, hein, très bien. C'est un autre récit. C'est-à-dire que là, l'histoire ramenée à l'os de la traque. Mais ensuite, je pense que... Je sais pas, il y a un moment donné, il y a une espèce de bascule qui se fait vers l'auteur et bon, je suis pas sûr qu'on aurait été en bon terme si on s'était fréquenté, mais j'ai une fascination pour cet homme qui pour moi paraît frappé d'une malédiction terrible, quoi. C'est sa vie, c'est une succession d'échecs. Et c'est quelqu'un qui a, le père a fait faillite, il devait être sombré dans la folie, la famille s'est trouvée déclassée, alors que lui-même était héritier du, descendant de deux grands-pères qui avaient fait la guerre, qui étaient des personnalités fortes et très en vue.
D'où le E, hein, d'ailleurs.
Oui,
je crois,
voilà,
de
ils ont rajouté,
hein,
le E à la fin pour justement ne pas être associé au nom de Melville sans E du père qui a fait faillite. Puis après, il s'est engagé sur la mer. C'est quand même l'auteur du plus grand roman sur la mer, mais sa carrière de marin, elle dure 5 ans. Elle est vraiment comme ça. Mais il est, en 5 ans, il a eu le temps de se mutiner, d'aller vivre, d'être chez les cannibales, d'être enfermé dans une prison française à Tahiti, de faire un navire de guerre. Il a fait toutes les expériences. Puis après, il se lance dans l'écriture. 10 romans, il y en a un qui est perdu, mais 10 romans qui sont des pavés en 10 ans, un épuisement comme ça. Et il faut, les 2 premiers sont un succès, mais Moby Dick, il en a vendu 3000 exemplaires dans toute sa vie, quoi. Et puis l'entrepôt de l'éditeur va brûler, donc les livres de Melville ne seront jamais réédités de son vivant. Ensuite, cet homme qui a toujours tiré le diable par la queue, qui a eu deux ans, un de ses fils qui s'est suicidé, l'autre qui est mort dans la misère de son vivant, hein, et qui ensuite a été, je trouve qu'il y a une malédiction, parce qu'ensuite il a travaillé au bureau des douanes donc on voit d'où vient Barthélemy. Enfin, même Barthélemy était prémonitoire en quelque sorte, la solitude du bureau de secteur. Donc il a travaillé dans un bureau des douanes. Je trouve qu'il y a une malédiction pour cet homme qui a voyagé, fait le tour du monde. Il est encalminé dans le port de New York à enregistrer les marchandises avec un boulot pendant 19 ans, ce qu'il appelle la solitude du bureau de secteur. Et ensuite il écrit ses poèmes pour lui tout seul, des plaquettes qu'il tire à 25 exemplaires. Il disparaît, quoi. Il y a vraiment une dimension Barthélemy chez lui qui me fascine, quoi.
Alors, piocher justement dans les œuvres complètes, hein, comme vous l'avez fait, Thierry Gilibœuf, c'était dire quoi ? C'était dire une unité ou au contraire une infinie variété de textures, de motifs ?
Il y a les deux, en fait. Ce qui m'a surpris, je suis reparti de mes exemplaires que j'avais annotés copieusement, et donc je voyais des phrases qui sonnaient bien, mais tout d'un coup, en les assemblant comme ça, ensuite, en plus, dans la particularité de la collection d'Arfien, c'était de les mettre par ordre chronologique. Ça dresse un portrait. On accompagne un homme, en fait, plus qu'un écrivain encore, sur toute sa vie. Et il y avait donc cette unité qui se dégageait, alors que moi, justement, j'étais parti sur cette idée de variété. On voit que non, il y a une espèce de ligne de force qui se trace comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû être très malheureux, parce que c'est quelqu'un qui était parfaitement conscient. En tout cas, sans peut-être se le dire clairement, mais conscient de ce qu'il écrivait avait une portée qui dépassait tout ce qui se faisait à son époque. Et il y a les 3 premiers romans qui sont des romans de la mer, et puis après il y a les 3 premiers romans qui sont des romans des îles plutôt exactement. Puis après il y a les 3 romans du milieu qui sont des romans de la mer, et puis ensuite il y a les romans qui sont ancrés dans l'Amérique. Il y a presque une trilogie qui se compose comme ça. Et puis ensuite ces contes. Sont très divers. Il y a Barthélemy, bien sûr, mais il y a un conte que moi j'aime énormément, qui est Moi mes cheminées, qui est une espèce d'allégorie de l'artiste, comme ça. C'est quelqu'un qui vit avec sa cheminée qui est immense, sa femme veut la détruire parce qu'elle prend trop de place dans le salon, et en fait, l'architecte lui dit, mais parce qu'il y a peut-être ça peut peut-être dégager des espaces. Alors lui, il imagine qu'il y a un bureau secret, une pièce secrète, des trésors, des squelettes à l'intérieur. J'ai vraiment pour moi l'impression d'une espèce de, et Melville dit, nous ne bougerons pas, ma cheminée et moi, nous ne bougerons pas, et c'est vraiment l'œuvre et moi, quoi, en fait. C'est comme ça que je le vois.
Melville, commencez-vous par rappeler dans le texte qui l'accompagne. Donc, c'est d'abord un scribe et une baleine. Hein. Évidemment, il s'agira davantage d'Ishmael, mais c'est deux avatars littéraires. Vous dites qu'ils se partageraient la psyché de Melville.
Ah oui, je pense qu'il y a vraiment. Tout ça, ça reste une interprétation personnelle. Hein. Donc, il y a ce côté renoncement qui va être la seconde moitié de sa vie, hein, les 40 ans, comme ça. Et il y a peut-être au départ, justement, quand il allait voir Nathaniel Hawthorne, qui a été sa seule amitié littéraire, hein, quand il est allé voir Nathaniel Hawthorne,
l'auteur de
la lettre écarlate, qui était son modèle, il débarquait chez eux, et Hawthorne, c'est quand même un personnage un peu, pas guindé, mais timide, réservé, un peu sur son quant à soi. Et Melville qui débarquait dans son grand manteau et son énorme chien qui de traîneau, avec son traîneau et son cheval, comme ça, qui arrivait de la ferme voisine et qui débarquait au milieu de la nuit et qui se mettait à mimer la danse une danse haïtienne avec un bâton, comme ça. Et la femme de Hawthorne racontait que quand il est reparti, ils ont cherché le bâton tellement il avait cette présence, quoi. Donc il y a cette espèce de folie ou de puissance. Plutôt, je pense qu'il y a une forme de puissance non canalisée chez Melville, et qui n'avait pas les outils peut-être pour l'incarner. Il y a ce côté à cap, c'est peut-être le côté shakespearien de Melville pour moi.
Shakespeare qui aura compté aussi, en tout cas la lecture de Shakespeare, qui fera rupture d'une certaine façon. Vous parlez de vie contradictoire, Thierry Gilibeuf, vous évoquez même John Buchanan qui parlait de Melville comme étant ce triton qui vit quelque part à New York, donc ça dit bien encore ce que vous étiez en train de dire, et de citer donc Moby Dick dans votre Ainsi parler Herman Melville, devoir payer sans doute la sanction la plus désagréable que nous ont valu ces deux voleurs de pommes de l'Éden. Alors vous parliez de malédiction, mais au fond c'est bien la chute qui travaille la vie comme les personnages de Melville.
C'est exactement ça. Il y a un côté parce qu'il a il y a un côté damnation qu'il refuse lui. Parce que si on lit attentivement Moby Dick, ou si on lit le précédent Mardi en particulier, et lui qui a côtoyé clairement concrètement les sauvages entre guillemets, c'est-à-dire les habitants de cette île des Marquises, les Tahitiens. Il a quand même une réflexion qui était très iconoclaste, qui lui a valu beaucoup d'ennuis, très iconoclaste, parce que il considère que finalement la civilisation n'est pas forcément du côté où on le pense, quoi. Et il a, c'est cette malédiction, ce qu'il rejette ici dans Moby Dick, cette malédiction première du christianisme, lui il la rejette parce que c'est la déchéance aussi d'un paradis qu'il a connu très brièvement, qui a été le seul moment où il a été heureux, peut-être ça a été justement sur cette île de Tahiti, et il y a cette nostalgie d'un paradis perdu chez Melville qui en effet est très forte et qui est interdite, ce retour au paradis, par le carcan de la religion et de la civilisation tel qu'il le vit aux États-Unis.
Il dit même, dans mon souvenir, vous le citez dans votre anthologie, il dit qu'il vaut mieux s'endormir auprès d'un cannibale sobre que d'un chrétien ivre.
Ben oui, c'est Queequeg, c'est dans Moby Dick.
Alors le premier Melville que vous traduisez, je crois, Thierry Gilibeuf, c'est en 2007, et c'est son Timoléon paru quelques mois, mais vraiment juste quelques mois avant sa mort, en 1891, à 72 ans, qui est donc l'un de ses quatre recueils de poésie. Celui-là paraîtra donc à 25 exemplaires, effectivement. On en écoute un extrait, La Complainte de C, lu par Jean-Luc De Baptiste dans votre traduction. C'était en 2007, au micro d'André Belter pour Poésie sur Parole, sur France Culture.
La lumière des cieux était magnifique. Quand les anges se penchaient dans l'azur, en ces années où la jeunesse était plus que vin grisante, où l'homme et la nature semblaient divins avant que je sente que jeunesse fût mortelle. Avant que je sente que jeunesse fût mortelle, la terre semblait manquer de substance, terre d'Aladin. À chaque pas en avant, ici ou là, une nouvelle fable. Onque n'ait pensé qu'elle ferait défaut. Et rien n'eut autant de prix, pas même la douleur. Oui, le plaisir et la douleur ont par réaction fait de la vie une querelle d'amoureux, la lutte heureuse d'une jeunesse à jamais disparue. Même pour sa mise au tombeau, elle est partie. Et seul m'a laissé pour veiller la nuit le cœur lourd qui naguère fut léger. Pose-la près de sa tête, la pierre.
La poésie de Melville sera redécouverte, découverte même, on peut le dire, tardivement, traduite en français notamment par Pierre Léris, à la faveur des succès posthume aussi, vous l'avez rappelé à l'instant, de Moby Dick et Bartleby, et pour cause, elle occupe une place assez singulière, la poésie de Melville, c'est-à-dire qu'elle fait rupture, d'une certaine façon, puisqu'il s'en remet à elle à partir de 1856, 57, par là, donc il a connu le succès effectivement avec ses tout premiers romans, et puis la dure, très dure incompréhension, ou progressive incompréhension, notamment avec Moby Dick en 51, et puis Pierre ou les ambiguïtés, après c'est la dégringolade.
À ce moment-là, les critiques ont dit qu'il était fou.
Fou et immoral, bien sûr. Fini le roman, donc fini la prose, et désormais il n'y aura plus que la poésie. Comment est-ce que vous comprenez ce choix, Thierry Gilibeuf ? Est-ce qu'il faut le voir comme un refuge, comme un refus, qui au fond ne placerait pas si loin de Bartleby ?
Moi, j'ai tendance à voir ça comme un refus. Mais avec peut-être quelque chose de cathartique, qui a été la guerre de sécession, et qui l'a beaucoup marqué. et comme nombre d'auteurs de cette époque. Et
comme les Whitman, voilà, qui est vraiment son exact contemporain.
Exact contemporain, ils sont morts tous les deux en 91. Et dans le poème de Buchanan, part à la recherche de Whitman et rencontre Whitman, mais ne retrouve pas Melville, parce que plus personne ne sait qui est Melville. Et donc, il y a eu la guerre de sécession qui lui a inspiré les poèmes de guerre, hein, les tableaux de guerre que Pierre Léris a traduit en partie, en petite partie, et qui sont un recueil, moi je trouve, d'une extraordinaire modernité sur ce que cela dit de la guerre, justement. Il suffirait de changer les noms de batailles et les noms de généraux, de commandants, pour que ça soit adaptable à toutes les guerres. Et donc ça a été vraiment une catharsis, c'est-à-dire qu'il a aussi écrit, il n'a pas une forme poétique propre, hein. Il peut écrire des poèmes très courts, comme des très longs poèmes. Il a écrit l'un des plus longs poèmes de l'histoire de la littérature anglaise, qui est Clarel, hein, un poème qui fait 18 000 vers, qui s'inscrit dans une tradition de ces poésies épiques anglaises, le Paradis perdu de John Milton ou Hudibras. Et ensuite, je pense que c'est parce que la poésie, bien, ça lui permettait peut-être d'un peu plus canaliser cette énergie créatrice qui était en lui, et de lui donner une forme peut-être plus académique, mais en tout cas plus structurée, qu'il n'avait pas inventée. Mais malgré tout, cette poésie, c'était l'ordre de l'intime, du confidentiel, puisque les poésies de guerre n'ont pas été un grand succès. Clarel, c'est un membre de sa famille qui l'a aidé à l'auto-édité, en quelque sorte. Et puis donc après, il est basculé. Il y a vraiment un renoncement. Hein. Et à la fin de à la fin de sa vie, il y a la réapparition de la prose à partir d'un poème. Au départ, c'est un poème, Billy Budd. Et puis ça devient ce livre qui laisse sous forme de palimpseste à sa mort. Quoi.
Pour autant, la poésie ne surgit pas non plus comme ça ex nihilo, parce qu'on peut,
il y a des poèmes
déjà,
dans
voilà,
Moby Dick,
il en glisse
de
déjà,
Marley, oui, bien sûr.
Où on peut. Alors, est-ce que, alors, vous venez de rappeler la diversité de ses vers, hein, de sa manière poétique. Pour autant, est-ce que déjà dans ces romans-là, on pouvait entendre, sentir ou comprendre un timbre particulier de la poésie de Melville?
Ah oui, parce qu'il y a, pour là, c'est le traducteur qui va parler. C'est une langue d'une difficulté vraiment terrible. Hein, quoi. C'est une langue qui est où il y a, je sais pas, quand on traduit, en fait, on essaie de casser quelque chose pour remonter autrement. Quoi. Mais là, c'est une langue qui offre une résistance. C'est épuisant de traduire Melville. C'est vraiment épuisant parce que c'est une langue extrêmement tendue, extrêmement nouée, avec un vocabulaire excessivement riche, une syntaxe très, 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 très particulière, qui lui est un peu assez propre, avec des phrases très longues, dont on perd, même quand on les lit en français, dont on perd le fil, en fait, au bout d'un moment, parce que sa pensée part dans tous les sens. Et je pense qu'il a vraiment été habité par cette énergie. Et on voit dans les poèmes qui sont dans les... dans Mardi, c'est moins marqué, parce que... Enfin, il y a beaucoup de poèmes dans Mardi, mais c'est des poèmes qui sont plus comme des chants, en fait. Hein. Mardi, c'est un voyage un peu swiftien dans les îles du Pacifique. Je pense que c'est l'un des chefs-d'œuvre méconnus de Melville. Pour moi, je trouve que ce livre est absolument génial. Et dans Melville, les quelques poèmes, dans Moby Dick, les quelques poèmes qui sont là, on sent émerger ce qui va se cristalliser dans ses recueils antérieurs, mais en même temps, je pense que derrière cela, il y a cette tradition orale des marins à bord des bateaux qui doit lui remonter à l'oreille, parce qu'on sent qu'on entend vraiment quelque chose de très, très, vraiment très oral, quoi, là, pour le coup. On parlait de couleurs, mais là, on entend vraiment quelque chose qui relève de la voix, quoi.
Melville, le lecteur, dites-vous, Thierry Gilibeuf, qu'est-ce qu'on sait justement de ces lectures? Alors, on a évoqué Shakespeare, mais je pensais surtout à ces lectures contemporaines, c'est-à-dire de ses petits camarades, parce que vous l'avez dit, hein, Whitman par exemple, il était l'exact contemporain de Whitman. Feuilleterme sort en 1855, hein, c'est-à-dire à peu près au moment où lui va s'en remettre à la poésie. Et puis on sait que la question aussi d'une littérature américaine se pose aussi pour Melville, hein. Il dit: aucun Américain ne doit écrire comme un Anglais ou un Français, qu'il écrive comme un homme, il sera sûr alors d'écrire comme un Américain.
Oui. Il a écrit un texte qui s'appelle D'où viens-tu, Hawthorne? Hawthorne et ses mousses, pardon, qui est un texte qui est une espèce de déclaration d'indépendance de la littérature américaine. C'est un texte fondateur parce que jusque-là, la génération précédente, celle de Washington Irving, John Fenimore Cooper, était dans une espèce ce sont des auteurs que j'aime beaucoup, mais qui sont dans une littérature, on dirait plus facilement folklorique, quoi. Alors que lui, il y avait eu la très importante revue, l'Edinburgh Review, où un critique avait dit, mais qui a envie de lire un livre américain? 20 ans avant Moby Dick, ce critique dit, qui a envie de lire un livre américain? C'est-à-dire que la littérature américaine, bon, c'est une espèce de sous-littérature, quoi. Et donc Melville dit, il faut s'affirmer en tant que littérature américaine. Je pense qu'il a lu Poe parce qu'il a fait une imitation d'un conte de Poe, et il a lu Les Transcendantalistes, dans Sorrow, qui n'aimait pas du tout. Donc c'est assez drôle pour moi, qui a beaucoup travaillé sur Sorrow, ça m'amuse beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de contes qui sont des... On peut deviner quand même qu'ils sont des charges contre... Je sais que Sorrow a lu le premier livre de Melville dans sa cabane à Walden, et que, inversement, parce qu'ils avaient le même éditeur, enfin le même ami éditeur, Doy Kink, et Melville a lu Sorrow aussi, et que ça lui a paru une espèce de fumisterie, une énième ressucée finalement du puritanisme, quoi. Pour Melville, il y a une fracture avec son éducation, avec son milieu, donc c'est incompatible avec ce qu'il ressent profondément, quoi.
Quant à Whitman?
Et pas de trace. Aucune trace, c'est vrai, alors qu'ils ont écrit tous les deux des poèmes sur la guerre, hein, parce qu'il y a les battle drums dans les feuilles d'herbe, mais je n'ai pas, en effet, je n'ai aucune trace d'une possible lecture, alors qu'ils étaient new-yorkais tous les deux, aucune trace.
Sur cette question justement de son rapport, enfin du rapport de Melville à son propre temps, vous citez Melville lisant Schopenhauer à la fin de sa vie, Schopenhauer écrivant ceci: « Plus un homme est fait pour la postérité, plus il appartient donc à l'humanité entière, plus il est étranger aux yeux de ses contemporains, car son œuvre ne leur est pas destinée. » Melville se croyait-il fait pour la postérité, d'après vous, Thierry Gilibert?
Je pense qu'il est, avec en même temps tous ces doutes qui sont inhérents à tous les créateurs, je pense qu'il était conscient d'avoir écrit quelque chose quand même qui dépassait le côté un peu pharisaïque ou béotien de ses contemporains. Et je crois que c'est pas un hasard si on l'a découvert réellement en 1924 avec la réédition de Billy Budd. Il y a eu une petite réédition, on a commencé à s'intéresser à lui au centenaire de sa mort en 1919. Mais c'est vraiment Billy Budd qui l'a relancé et qui l'a remis en piste. Hein, parce que Billy Budd, c'est l'histoire... Alors il y a évidemment les interprétations sur l'homosexualité latente ou pas de Melville, mais c'est autre chose aussi, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une espèce de figure archangélique de l'innocence et de la bonté qui se retrouve confrontée à la brutalité et la jalousie, et puis en même temps à l'inflexibilité de la loi martiale. Et pour la génération qui a connu la Première Guerre mondiale, c'est très parlant. C'est très parlant, et je pense que toute cette génération américaine qui va découvrir Melville en 1924 avec Billy Budd s'est retrouvée dans cette figure de Billy Budd, à l'absurde militaire en fait, à l'absurde de la guerre, à l'absurde de la violence et à l'absurde de la loi aussi. Et puis il y a Moby Dick qui est un livre total, quoi. C'est-à-dire que y a la façon dont il l'a construit, a commencé par ses 80 citations sur la encyclopédique, comme ça. C'est un livre, il a tout mis dedans, quoi. Il a tout mis. Et il y a une folie, il y a une trame, ça part dans tous les sens. Ça, c'est extraordinaire comme bouquin. C'est d'une puissance. Je suis à je sais pas combien de lectures, et pour moi, c'est à chaque fois une claque.
Alors, obsession toujours, Thierry Gilibeuf, Melville en cours, hein, toujours sur la table de travail, mais aussi Poe, Swift, Twain, Reznikov, Kipling, Sorrow, vous l'avez dit, Ambrose Bierce, enfin, moi, je vais pas tous les citer, hein, ce sont ceux que vous avez traduits, mais pour vous, tout a commencé par là.
Don't forget the poem on page 112. It reminded me of you.
Really?
Oh. Page 112.
Bye.
Bye.
Your slightest look easily will unclose me. Though I have closed myself as fingers, you open always petal by petal myself as spring opens, touching skillfully, mysteriously, her first rose. I do not know what it is about you that closes and opens. Only something in me understands. The voice of your eyes is deeper than all roses. Nobody, not even the rain, has such small hands.
Personne, pas même la pluie, n'a de si petites mains. Michael Caine et Barbara Hershey, Anna et ses sœurs, Woody Allen, 1986. Et la fameuse page 112 hein, du recueil de Cummings, hein, le poème « Somewhere I have never traveled gladly beyond ». Vous avez fini par le traduire ?
Oui, bon, je fais ça très bref, mais je suis allé le voir avec ma copine de l'époque, et qui partait aux États-Unis le lendemain. Et moi, j'ai trouvé ce poème extraordinaire. Et je suis retourné, pendant qu'elle était dans l'avion, je suis retourné au cinéma le lendemain avec un crayon dans le noir pour recopier le poème. Elle m'a ramené le bouquin que j'ai encore à la maison. Et ce qui est idiot, je l'ai traduit pour elle alors qu'elle parlait parfaitement l'anglais. Et il m'a fallu un an pour le traduire parce que c'était mon premier essai, que j'étais très poussif en anglais à l'époque. Et pour petite histoire, ça ne servit à rien. Donc mais bon, pour moi, ça reste le plus beau
poème. Ça n'a pas servi à rien, traducteur, voilà, d'une certaine façon.
C'est le plus beau poème d'amour. Et la première chose que j'ai faite quand je suis allé à New York il y a 2 ans, c'était d'aller justement au Cat Patchin Place, qui était la maison où Cummings a fini toute sa vie, les 30 dernières années de sa vie. Et il y a une petite plaque. Et quand j'étais avec Christian Garcin, on a pris ça en photo. Et à ce moment-là, un petit garçon est sorti en nous demandant « Mais pourquoi vous prenez ma maison en photo ?» Voilà, c'était la boucle était bouclée comme ça.
Alors, et c'est ce qui nous amène, magie de la transition, tout naturellement à vous, Bernard Banoun. Hein, et après, Moby Dick a un autre monstre. Hein, donc, après 3 premiers volumes parus aux éditions Verdier, le dernier tome d'histoire des traductions en langue. Et c'est histoire au singulier, d'ailleurs.
Hein, histoire au singulier, et le reste au pluriel. Oui. Mais ce sont aussi des histoires de traduction.
Oui,
aussi,
il pourrait y avoir un S à histoire. Des traductions en langue française consacrées au XXe siècle. Donc, 1900 pages, 30 chapitres. Et puis, la traduction saisie par sa pluralité, par ses enjeux, par ses ruptures. Littérature, bien sûr, mais aussi histoire de l'art, opéra, ça vous importe. Musicographie, cinéma, bande dessinée, chansons, philosophie, textes juridiques. Histoire, textes scientifiques, psychanalyse, je ne vais pas tous les citer, féminisme et études de genre, hein, qui a droit à un chapitre particulier, anthropologie également, tout abordé, c'est-à-dire c'était une façon de dire que la traduction relève toujours d'un seul et même acte. Hein.
Oui, disons que cette pluralité que vous avez mentionnée en citant un grand nombre de chapitres, c'est une volonté du volume pour montrer justement à quel point elle traverse la culture et on peut la retrouver dans tous les domaines. Mais par ailleurs, donc ces domaines, on les a mis en place à partir de catégories qu'on connaît ou catégories qui émergeaient au XXe siècle. Malgré tout, en y réfléchissant, maintenant ce volume a paru il y a quelques mois et puis pendant la gestation du volume aussi, on se disait mais on aurait pu parfois avoir d'autres catégories, redéfinir un peu les catégories de la littérature et de la science en fonction de la traduction. Et pour faire le lien avec Melville, Melville, je dirais pas qu'on n'a pas su où le placer, mais on l'a placé au moins dans la littérature de jeunesse, de voyage et dans la fiction en prose avec la grande littérature du XXe siècle, parce que justement, il est arrivé par la traduction aussi, vous l'avez rappelé, comme ouvrage de jeunesse. Et donc c'est La traduction montre en fait la constitution d'un savoir, d'une culture par l'apport de l'étranger et sa redéfinition aussi par cet apport. Une volonté que nous avons et que nous avions et qui n'est peut-être pas aussi réalisée qu'elle aurait pu l'être, mais qui est quand même quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, c'est de faire une histoire des traductions vers le français, donc vers la langue française, et aussi de mettre en évidence de nous décentrer nous-mêmes, c'est-à-dire aussi de faire appel à des collègues, notamment canadiens, suisses et belges, de montrer aussi des lieux extérieurs à l'Europe où des traductions ont été faites, que ce soit à Moscou avec des bureaux de traduction qui exportent même des traductions, telle traduction de poésie japonaise publiée au Japon dans les années 30. Donc en fait, on a voulu montrer cet espace mondialisé de la traduction, à la fois le monde entre dans la langue française, et au XXe siècle, c'est vraiment une des caractéristiques, et en même temps, la langue française dans est aussi répartie dans divers lieux.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Alors pour la littérature, Bernard Banoun, qui est la partie qui nous concerne plus précisément ici, hein, pardon pour les textes juridiques et scientifiques et techniques, il a fallu ménager évidemment de nouvelles entrées pour le XXe siècle, hein, je pense notamment au cinéma, mais aussi à la bande dessinée. Et puis à l'intérieur même de la littérature, vous avez isolé une partie, une séquence qui touche au témoignage. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que cet isolement, cette autonomie du texte de témoignage viendrait dire et de la traduction et puis au fond de l'histoire de la littérature?
Oui, la littérature de témoignage, en effet, quelque chose qui nous est apparu grâce, donc c'est un chapitre qui a été fait par Luba Jorgensen avec quelques collègues, donc des spécialistes notamment et traductrices de Chalamoff, et donc ça nous est apparu comme étant quelque chose lié à la politique et à l'histoire du XXe siècle. Et en fait, selon les chapitres, par exemple dans le chapitre sur la fiction en prose, c'est vrai que nous avons beaucoup articulé notre présentation d'une masse de traductions difficiles à saisir en fonction d'éléments historiques et géopolitiques. Et au XXe siècle, eh bien dans les tragédies de l'histoire au XXe siècle, on peut s'apercevoir que, disons, que deux grands pôles, mais qui ne sont pas les seuls, qui sont donc la Shoah et le Goulag, produisent malheureusement une forme de texte, et cette forme de texte est caractéristique et peut-être quelque chose qui est qui marque une césure d'entrée dans le XXe siècle. Et à partir de là, donc on a aussi d'autres, donc ça met en place une sorte de catégorie de textes qui sont liés à la traduction, au sens où le témoignage, et par exemple dans le témoignage de personnes incarcérées au Goulag ou de personnes ayant été victimes de la Shoah, il y a la question justement des langues au début, c'est-à-dire qu'en fait le témoin, il parle, on va recueillir son témoignage, et parfois son témoignage, eh bien, dans une langue, il va être d'emblée traduit par la personne qui le recueille. Ça vaut aussi pour des génocides en Afrique qui sont abordés dans le livre. Et donc, en fait, il y a là, peut-être encore plus que dans d'autres textes, une sorte de paradigme de la traduction, en fait, du fait que la traduction soit vraiment au cœur de l'acte d'écrire et de publier un livre. Et donc, cet acte se redouble au moment où un texte en langue étrangère, lui-même, donc parole recueillie, passe en français. Il y a des enjeux importants.
Alors, si le XXe siècle, Bernard Banoun, est celui de la traduction, hein, d'une certaine façon, et puis les chiffres égrenés sont d'ailleurs très parlants, hein, en début de volume, hein, on connaît vraiment une intensification, une inflation même de traduction, notamment dans les années 80, oui, 90. Fait, oui. Ce que dit ce volume aussi, c'est que le XXe siècle est aussi le siècle du traducteur. Qu'est-ce que devient le traducteur à proprement parler au XXe siècle?
Oui, alors peut-être pour faire comme un bref rappel très rapide sur les volumes antérieurs, certes il y a ce changement au XXe siècle qui est l'expansion de la traduction, expansion au sens quantitatif et puis aussi au fait qu'on traduit des textes très anciens et de langues très rares qui n'avaient pas été traduits, que ce soit l'acadien, le phénicien, le sumérien, et en même temps de contrées lointaines, des littératures africaines. Bon, donc il y a cette explosion là, mais ça suit d'une certaine manière aussi une histoire qui s'articule toujours sur les langues dominantes, les domaines émergents. Et alors pour ce qui est du traducteur, en effet, le traducteur, en fait, il y a un chercheur américain qui s'appelle Lawrence Venuti qui a parlé de l'invisibilité du traducteur, et donc au XXe siècle, en effet, il y a un début de visibilité qui se fait surtout par exemple en France avec la création d'associations de traducteurs, de festivals de traduction, le fait que le nom du traducteur soit sur la première ou la quatrième page de l'édition. Donc en effet, on a le traducteur devient plus visible. Au XXe siècle, il y a des formations de traducteurs universitaires. Mais en fait, au XXe siècle, il y a donc c'est une forme de reconnaissance qui arrive lentement et qui est, dirais-je, un peu en dents de scie aussi.
Alors, je pensais pas seulement à la reconnaissance, à la visibilité concrète, hein, et même à la professionnalisation du traducteur. Alors, c'est vrai que le traducteur, par exemple, est désormais, parfois, pas toujours, mais désormais en couverture. C'est le cas notamment de Thierry Gilibeuf, ici présent. Et par ailleurs, ce qui change aussi, c'est que le traducteur prend la parole. Ce qui est un peu une... La preuve en est... Oui. Vous êtes tous les deux traducteurs. Oui. Et change d'une certaine façon de statut, c'est-à-dire qu'il devient un peu une sorte de d'hyper-lecteur, le traducteur, susceptible de parler de l'objet qu'il a traduit, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc je me demandais de quoi ce changement-là était le signe. Est-ce que c'est aussi un changement de lecture, hein, pour nous, c'est-à-dire de faire du traducteur l'hyper-lecteur? Est-ce que c'est aussi une autre façon de regarder la littérature, Bernard Banon?
Oui, tout à fait. Alors, là encore, je vais un peu relativiser parce qu'il y a quand même tout au long de l'histoire des traducteurs qui se sont exprimés et en fait dans des notes ou des postfaces, on trouve même donc dans des périodes anciennes des témoignages de traducteurs qui sont peut-être moins formalisés mais qui permettent de reconstituer quand même la perspective du traducteur, sa stratégie. Et bon, et un grand texte là-dessus, c'est aussi ce qui accompagne la traduction de Chateaubriand, de Milton par Chateaubriand, qui est un texte où Chateaubriand prend vraiment parti pour une certaine forme de traduction qui est d'ailleurs très très moderne. Alors pour ce qui est justement de la du rapport au traducteur, on est en effet, je pense que le traducteur devient une figure peut-être plus importante dans la recherche. On a parlé parfois de tournant traductif ou de tournant translationnel, translational turn, peut-être parce que dans un monde justement que l'on dit maintenant globalisé, mondialisé, même il a été sous d'autres manières autrefois, eh bien cette figure de l'échange et de l'interprète et de la traduction devient extrêmement prégnante et peut-être se rencontre constamment. On est peut-être plus constamment qu'autrefois et disons plus largement, plus démocratiquement entre guillemets, confronté à des langues étrangères, donc aussi au besoin de traduire et à la confrontation avec l'étranger peut-être, je dirais.
Thierry Gilibeuf, hyper lecteur.
Ah oui, non, mais je trouve, j'adhère parfaitement. Moi j'ai un modèle de traducteur, c'est Larbaud, qui était un formidable passeur, quoi. C'est-à-dire qu'il dit justement, en tout cas, ça a été ma démarche, c'est que ça part d'un amour des textes. C'est-à-dire qu'on a aussi quand même des traducteurs qui sont associés qui deviennent associés à des auteurs, hein, et qui, parce que, non pas parce qu'ils se les approprient, mais parce que justement, quelque chose de poreux entre eux qui fait que, on peut leur faire pleinement confiance. C'est une question de confiance aussi, mais je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites sur l'évolution de... Je ne m'étais pas posé la question, mais en fait, j'ai l'impression que même cette expansion des traducteurs, ça correspond aussi à peut-être à une vision où l'Occident, en tout cas, comprend qu'il n'est plus le centre du monde. Ça a changé notre rapport à ce que vous disiez, à l'étranger, à l'autre, quoi.
Oui, tout à fait. Ça fait entrer des continents entiers, des pans de culture entiers. Et je pense qu'en effet, la figure du traducteur, en fait, on s'en aperçoit quand on est traducteur soi-même quand on fréquente des traducteurs, que les traducteurs jouent un rôle important dans la chaîne du livre, comme on dit. C'est-à-dire que souvent, ce sont des traducteurs qui découvrent, qui sont les premiers à importer, à conseiller parce qu'ils lisent ce qui se fait dans la langue originale et en effet donc ont un investissement particulier par rapport à un auteur et parce qu'il y a cette conviction qu'un auteur doit être défendu.
Alors cette pensée de la traduction, si elle modifie le traducteur, quand je dis elle modifie le traducteur, ça veut dire surtout elle modifie aussi le lecteur de la traduction, parce que c'est aussi ça qu'écrit cette histoire des traductions en langue française. Le hors-champ, c'est le lecteur, d'autant plus que le XXe siècle est aussi le siècle de la retraduction, qui fait l'objet, là, pour le coup, d'un chapitre en soi, assez copieux, assez riche, très passionnant, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fallait dire dans ce chapitre-là, sachant que, évidemment, toute traduction est par définition inédite?
Oui, c'est en effet un phénomène du XXe siècle, même si dans les siècles passés, il y avait déjà eu des retraductions, soit d'œuvres classiques, soit d'œuvres contemporaines, qui avaient très vite un grand succès à l'étranger, ou d'auteurs connus qui étaient retraduits. Au XXe siècle, ça prend une signification particulière, au sens, je pense, qu'il y a des moments de... Voilà, on fait le bilan sur des traditions du passé, sur des œuvres du panthéon littéraire que l'on retraduit. Disons que la retraduction, c'est quelque chose de passionnant et en même temps d'ambigu, parce que on part souvent du principe qu'une traduction vieillit forcément et que donc au bout d'une génération il faut refaire une nouvelle traduction. C'est vrai d'une certaine manière et ce n'est pas vrai d'une autre manière, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des traductions qui restent, qui sont tout à fait valables. Enfin, dans le volume, on mentionne notamment une traduction des élégies de Rilke des 1936, et par le même traducteur Joseph-François Angelot, une traduction des Affinités électives de Goethe de 1936. Francis, qui en fait sont des traductions qui, même si elles ont été suivies d'autres, ont quand même une grande importance dans la réception de ces œuvres et sont voilà totalement, enfin sont totalement défendables. Et en fait, je dirais que la retraduction, bien sûr, c'est cet apport d'une nouvelle lecture et c'est important pour le lecteur parce que ça peut aussi faire donner un aspect de la langue d'un auteur ou même un aspect d'un écrivain en général que on n'aurait pas soupçonné avant parce que on l'avait le premier traducteur l'avait peut-être un peu trop acclimaté. Mais ce qui est aussi
fascinant. C'était le cas, par exemple, pour Dostoïevski.
Par exemple, pour Dostoïevski, ne pas le citer. Voilà, tout à fait.
Dont on a fait un écrivain français, oui. Quasiment. Enfin, en tout cas, on en a fait des romans français. Oui. Et c'est vrai que la traduction de Markovitch nous a apporté un tout autre Dostoïevski.
Tout à fait. Et ça, en effet, c'est un des changements radicaux avec cette oralité qui est aussi liée à, aux écrits de Martin Dostoïevski, enfin, toute la manière dont on peut lire Dostoïevski. En contrepartie, malgré tout, Dostoïevski a une importance énorme en français dès sa première traduction. Et donc, voilà, quelque chose est passé, même si maintenant il est nécessaire de le relire. Et ce que je trouve intéressant, ça m'amène justement à l'autre idée que je voulais dire, c'est idéalement, il faudrait lire plusieurs traductions d'un même texte, et parce que ça ouvre des perspectives, ça éclaire le texte d'une manière différente. Et voilà, on pourrait très bien imaginer que quelqu'un, par une sorte d'amour obsessionnel pour un auteur, lise, je sais pas moi, les 200 traductions des sonnets de Shakespeare ou les, je sais pas combien, des élégies de Rilke, il y en a une vingtaine, je pense, parce que à chaque fois, l'importance n'est pas l'intérêt. L'intéressant, ce n'est pas de dire cette traduction est meilleure, cette traduction est moins bonne. Et d'ailleurs, dans le livre, nous avons essayé justement de ne pas distribuer nos bons points ni de blâme, mais d'observer les traductions et d'essayer de reconstituer pourquoi telle chose avait été dite. Et donc, ça, ce n'est pas le fait de dire que c'est bon ou moins bon, mais c'est de montrer un éclairage sur une œuvre et d'approcher du mystère d'une œuvre par la traduction. Et dans ce cas-là, justement, c'est une hyperlecture, parce qu'en fait, si on lit en langue originale, on peut lire, aller au fond du texte, mais en fait, parfois, la traduction nous révèle des choses de l'original, et c'est intéressant de lire, en fait, par le détour d'une langue étrangère aussi.
Le traducteur est heureux quand il n'y arrive pas. Je vous dis encore une fois, quand c'est lumineux dans l'une et l'autre langue et qu'il n'y a aucun moyen. Soit c'est lumineux dans la langue d'arrivée, soit c'est lumineux... Mais c'est quand le traducteur n'y arrive pas qu'il est au comble du linguistique. Ça peut paraître paradoxal. Il n'y a que lui qui le sait. Le malheur, c'est comme le poète. Ça, qui, plus c'est intense, plus tout à coup la parole est de la cendre. Pour le traducteur, le traducteur est un poète qui ne fait pas d'œuvre. La traduisie, c'est le refuge des langues. C'est là où elles sont elles-mêmes. Ce qui aussi fait que les autres peuvent y accéder, puisque toute traduction, encore une fois, est heureusement, toujours à recommencer. Ce qui sauve la poésie, c'est qu'il sera toujours à traduire. On pourra toujours traduire. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé de retraduire pour lui le Prométhée de Goethe. Et c'est chaque fois autre chose. Et ça, c'est passionnant. C'est comme la poésie, elle passe à travers le temps. Son essence, c'est d'être accessible à tout le monde et de ne jamais être réalisé. D'être toujours en avance d'elle-même. Ça me semble... la joie de la littérature, c'est ça qu'on n'en finit pas avec elle. Le jour où... Si jamais il y a un jour une traduction réussie, c'est la fin du monde. Ce qui nous sauve, c'est que ça ne marche pas.
Au micro d'Alain Weinstein sur France Culture en 2014, la voix de l'immense traducteur Georges-Arthur Goldschmidt, traducteur par ailleurs du tout frais prix Nobel Peter Handke. Ce qui nous sauve, c'est que ça ne marche pas. Bernard Bannoun, est-ce que vous comprenez, vous, Thierry Gilibeuf aussi, après tout vous êtes concernés tous les deux, est-ce que vous comprenez cette façon de voir les choses?
Oui, tout à fait. Disons que il n'y a pas de traduction sans doute définitive, ça c'est sûr. Jean-Claude disait traduction réussie. Alors, je pense qu'il y a des traductions quand même qui sont réussies, plus réussies que d'autres, ça c'est sûr, et qui font passer beaucoup. En revanche, en effet, définitive, non.
Thierry Gilibeuf.
J'aime bien cette idée du quand ça marche pas, parce que il y a une très belle définition de la traduction qu'on doit à Umberto Eco. Il dit c'est dire presque la même chose. Mm-hmm. Tout est dans le presque, en fait. Le traducteur, c'est ce qu'il perd. Hein. Mais quand Arthur Goldschmidt parle de ces moments du traducteur qui bute, etc., mais il y a ces petites victoires, tout d'un coup, ces espèces de fulgurances qui vous viennent, qui vont vous réveiller la nuit quand même. C'est des passages sur lesquels on bute, tout d'un coup, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr comme
sous oui, là, une sorte de justesse qui s'impose.
Voilà. Et ça, bon, alors, ça, évidemment, c'est un côté à la fois jubilatoire, exaltant, etc. Et très frustrant parce qu'on peut le partager avec personne. Hein. Personne ne comprend que tout d'un coup, ces quatre mots qui nous ont posé des problèmes pendant 3 semaines deviennent tout d'un coup lumineux et que le lecteur glissera dessus comme. Comme de rien, et que vous, ça vous a coûté de la sueur et des angoisses, mais bon, c'est pas grave.
Oui, mais il y aura quand même une certaine forme d'écriture du texte. On saura quand même le texte est vraiment écrit et n'est pas seulement une solution. Il n'y a pas cette transparence, justement, que cette idée de transparence contre laquelle s'exprimait Jean-Jacques Goldschmidt en disant qu'en fait, voilà, quand c'est transparent, quand il y a équivalence mot à mot, en fait, ce n'est pas intéressant, en fait.
D'où viendrait, qu'on ménage une place ou un statut ou une valeur particulière aux traducteurs de poésie, hein, par rapport à ce qu'on vient d'entendre justement de Georges Arthur Goldschmidt. Et puis là, pour le coup, il y a aussi un long chapitre ménagé à la traduction de poésie.
Oui, un chapitre sur la poésie, et aussi dans la retraduction, il y a des choses sur la poésie, et puis dans des chapitres sur les littératures extra-européennes. Eh bien, en fait, parce qu'il y a l'idée que la poésie est d'abord une position de prestige en littérature, et que la traduction de poésie est toujours confinée à l'intraduisible en raison parfois quand ce sont des vers, et bien d'une sorte de compression, de densité qu'il est difficile de faire passer. Et par exemple, entre l'anglais et le français, c'est très compliqué parce que il y a plein de monosyllabes, etc. Donc en français ça prolifère et il faudrait recompacter ensuite, donc cette intraduisibilité, le fait qu'on ait la tension entre le son et le sens, pour parler rapidement, et que il faut essayer de retrouver de recréer le texte, peut-être encore plus que dans d'autres domaines. Personnellement, je pense que dans la prose, en certaines proses, on a le même défi, mais c'est vrai que dans la poésie, c'est là peut-être qu'il s'exprime le plus fortement.
Pour autant, au XXe siècle, c'est quand même aussi le moment où la traduction de la poésie pourrait poser le moins de problèmes, dans la mesure où elle s'est quand même largement émancipée de ces contraintes, des questions justement métriques, des questions de rime. Alors pas que, mais aussi, et en même temps, on continue à avoir cette tradition du poète traducteur de poésie.
Oui, alors là, je vais exprimer en mon nom propre et moins comme chercheur comme traducteur. C'est vrai qu'on a, et notamment en France, cette idée du traducteur poète qui, enfin, que seul traduirait, serait habilité à traduire la poésie, le poète, parce qu'il a déjà une œuvre. Et en fait, dans ce qu'on essaie de montrer dans le livre aussi, c'est que il faut quand même relativiser cette idée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'immenses réussites par des grands poètes qui sont aussi de grands traducteurs, mais parfois si par exemple vous faisiez des tests à l'aveugle, parfois vous ne pourriez pas forcément dire ça c'est la traduction d'un poète et ça ce n'est pas la traduction d'un non-poète. Je pense qu'il y a, et Georges Goldschmidt disait justement, je crois que le traducteur était un écrivain sans œuvre. Bon, traduire, écrire, ça, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet-là. Mais en effet, il y a des traducteurs qui peuvent justement, par une sorte de passion dans tous les sens du terme pour une œuvre ou pour un auteur, lui donner une voix très particulière et une voix qui est aussi une voix poétique, qui en quelque sorte canalise leur propre œuvre qu'ils n'ont pas faite. Mais ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de poètes traduisent parce que peut-être plus pour la poésie que pour d'autres genres. Voilà, il y a ces filiations et ce besoin de traduire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est une des choses intéressantes dans la traduction. C'est pourquoi traduit-on. Bien sûr, il peut y avoir des commandes et tout ça, mais en fait, il y a vouloir traduire, c'est vouloir à la fois s'approprier, à la fois faire passer. Et donc, quand un poète trouve en quelque sorte des figures tutélaires, eh bien, très souvent, en effet, il va vouloir les faire passer, soit les traduire, soit les retraduire. C'est une manière de faire acte et de s'imprégner de cette poésie. Et donc ça, c'est en effet une particularité, je pense, de la traduction poétique.
Thierry Gilibeuf, vous qui vous y êtes beaucoup collé quand même à la traduction de poésie, qui écrivez aussi.
Oui, mais en cachette aussi. Alors donc, je pense que c'est très pratique la traduction pour ça. Mais je trouve ça passionnant ce que vous dites, vraiment passionnant. Je vais aller me précipiter sur ce livre juste après l'émission parce que c'est vraiment, ça pose des problématiques qui me travaillent de plus en plus parce que plus je pense que plus au début quand j'ai commencé je m'étais pas posé de questions mais là je m'en pose et en effet le cas particulier de la poésie je pense que enfin j'en reviens toujours à Larbaud mais il y a quand même je crois que alors ça fait je vais me mettre une petite médaille au revers de mon veston mais c'est en fait je pense qu'il y a une démarche de générosité hein. Il y a quand même une démarche de partage dans ces cas-là quand il y a une filiation c'est aussi pour donner à lire ce qui vous a habité, ce qui vous a hanté, ce qui vous a aussi construit. Et je crois qu'il y a beaucoup de traducteurs qui travaillent ainsi. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des traducteurs qui viennent en disant, il y a tel livre, c'est extraordinaire, il faut comme ça. Les traducteurs font beaucoup ce relais. Et heureusement pour les éditeurs, parce qu'ils ne peuvent pas être polyglottes, hein, comme ça. Donc, il y a cette démarche vraiment de générosité qui ramène la littérature à cette idée d'échange et de communication, de transvasement permanent. Et je trouve que en poésie, c'est en effet beaucoup plus fort parce que il y a aussi enfin c'est quand même une figure littéraire à part le poète hein. C'est quand même un rapport au monde, à la langue qui est particulier qui même si aujourd'hui vous l'avez dit la poésie moderne s'est affranchie d'un certain nombre de contraintes métriques formelles etc mais elle en a créé d'autres en fait hein. Ouais. Elle en a créé d'autres et je vois moi, pour avoir traduit de la poésie anglaise les contraintes de la moderne je suis pas certain que traduire des poètes contemporains soit beaucoup plus facile que traduire des sonnets de Shakespeare par exemple parce que ils ont tout un tas de ils créent leur propre langue, ils créent leur propre métrique, leur propre sonorité et les Anglais en particulier travaillent énormément là-dessus quoi sur la polysémie etc c'est jamais gratuit, quoi.
C'est la fin de cette émission, ou presque. Je signale encore que ce week-end, France Culture met Melville à l'honneur. Ce sera demain, samedi noir, Melville, Hawthorne, une amitié interdite d'après Stéphane Lambert. Et puis dimanche, toujours à 21h pour Théâtre et Compagnie, Moby Dick, un exceptionnel concert fiction réalisé par Cédric Aussire. Mais d'ici là, Bernard Banoun et Thierry Gilibeuf, je vous laisse conclure entre vous. Et sans moi, alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
D'où vient ce désir de traduire et de continuer à traduire pour vous ?
Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de partager ce qui me porte. Je trouve que j'ai fait de la retraduction avec Poe, et puis avec certains contes de Melville, mais tout n'avait pas été traduit pour Poe aussi, mais pour Melville non. Donc moi j'ai un peu la coutume de dire que je bouche les trous en fait. Donc j'aime bien. Melville pour moi c'est une œuvre obsessionnelle, comme vous l'aurez compris. Et donc la poésie n'a pas été traduite aux trois quarts. Donc j'ai en chantier aussi de traduire l'intégralité de l'œuvre poétique. Et cette idée de boucher des trous et de donner à lire. Avec une démarche qui est presque intéressée, parce que j'espère que d'autres traducteurs feront la même chose pour moi, lecteur.
Pour d'autres auteurs, ouais, oui, c'est ça, en fait. C'est une constitution lente d'œuvre complète. Ouais.
Compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Jean-Michel Bernaud. À la préparation, Thierry Beauchamp, à la réalisation, François Connac. Et puisqu'il était question de traduction, cette émission est dédiée à la mémoire du poète et traducteur de Rilke, de Seferis, de D.H. Lawrence notamment, Laurent Gaspard, disparu le 9 octobre dernier. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.